Gawain avançait dans la fumée, des tentacules noires s'enroulant autour de lui. Sous ses pieds, il sentait la chaleur des rares touffes d'herbe survivantes. Au sommet du plateau, tout avait brûlé, laissant le sol jonché de cendres. Des cadavres carbonisés, on eût dit des sacs de charbon ou de scories, gisaient à côté des dragons détruits. De temps en temps, Gawain le savait, pour rendre sa fertilité à un champ, les paysans brûlaient la récolte. À présent, le monde entier était en feu. Alors qu'il marchait dans la fumée noire, son mouchoir humide noué sur le visage, le jeune homme espéra qu'il y aurait là aussi une renaissance. Des fissures couvraient le sol. Les ténèbres détruisaient ses terres. La plupart des trolloques étaient massés au sommet du plateau, les yeux rivés sur le guet de Hawal. Quelques-uns, cependant, examinaient les cadavres. Avaient-ils été attirés par l'odeur de chair brûlée? Émergeant de la fumée, un Myrdraal vint les sermonner dans un langage que Gawain ne comprit pas. Joignant le geste à la parole, le blafard fouettait les monstres. Gawain se pétrifia, mais le Myrdraal ne le remarqua pas. Il s'éloigna, poussant les traînards vers leurs camarades. Gawain attendit. Alors qu'il respirait doucement à travers le tissu, il sentit les âmes des couteaux du sang, avides de le hanter. Mettre les trois bagues avait eu de l'effet. Sa tête tournait un peu, et dès qu'il marchait, ses jambes avançaient trop vite. Pour ne pas perdre l'équilibre, il lui avait fallu un moment d'adaptation. Un trolloque à gueule de loup émergea de derrière un tas de gravats et huma l'air, sans doute en quête du Myrdraal. La voix étant libre, il sortit de sa cachette, un cadavre jeté sur son épaule. Passant devant Gawain à quelques 5 pieds, il s'immobilisa et renifla de nouveau. Puis il continua son chemin, dos voûté à cause de son fardeau. Le cadavre qu'il emportait était vêtu d'une cape caméléon de champion. Pauvre Simon. Il ne jouerait plus jamais une main de cartes. Gawain rugit de colère, à mi-voix, et ne réussit pas à s'empêcher de bondir. Optant pour embrasser la vipère, il tourna sur lui-même et décapita d'un seul coup le trolloque. Le corps s'écrasa sur le sol. Debout, son épée brandie, Gawain se maudit en silence. Puis il s'accroupit et s'enfonça dans la fumée. Un bon moyen de cacher son odeur et de se fondre dans le paysage. Quel crétin ! S'être exposé ainsi pour tuer un seul trolloque. Car quoi qu'il arrive, la dépouille de Simon finirait dans un chaudron. Gawain ne pourrait pas tuer tous les monstres. De plus, il était là pour un seul homme. Accroupi, il attendit de voir si son exploit avait attiré l'attention. À supposer que quelqu'un ait pu le voir, il n'avait aucune idée du niveau de discrétion que lui fournissaient les bagues. Mais n'importe quel témoin aurait vu tomber le trolloque. N'entendant aucun cri d'alerte, Gawain estima qu'il ne risquait plus rien, et il reprit sa route. Baissant les yeux, il constata que ses doigts étaient rouges de sang sous la couche de suie. Il s'était brûlé, mais la douleur restait lointaine. Les bagues. S'il avait du mal à réfléchir, ça n'aurait aucune influence sur ses qualités de guerrier. Au contraire, depuis, son instinct était devenu bien plus puissant. Démandred, où était Démandred? Gawain sillonna le sommet du plateau. Près du gué, Cotton avait posté des troupes. Mais avec la fumée, impossible de savoir à quel corps d'armée elles appartenaient. Sur l'autre berge, des frontaliers affrontaient une unité de la cavalerie charienne. Au sommet, tout était tranquille, malgré la présence des créatures des ténèbres. En restant du côté des broussailles, Gawain remonta une longue rangée de monstres. Personne ne parut le remarquer. Ici, les ombres ne manquaient pas, et elles étaient une source de protection. En bas, dans le défilé, entre le plateau et le marécage, les feux s'éteignaient. Trop tôt, semblait-il, pour que ce soit un phénomène naturel. Quelqu'un canalisait. Gawain avait l'intention de débusquer Démandred en remontant les sources de l'attaque massive. Mais si le rejeté canalisait seulement pour éteindre les feux, il faudrait... L'armée des ténèbres se mit en mouvement, dévalant la pente en direction du gué. Même si les chariens restaient prudemment à l'arrière, les trolloques chargeaient comme des taureaux furieux. Encouragés par la rivière asséchée, ils étaient impatients de la traverser, puis de fondre sur les forces de Cotton. Si ce fichu type avait en tête de forcer toutes les troupes du rejeté à quitter le sommet, il s'était trompé lamentablement. Des unités d'infanterie et de cavalerie charienne restèrent à leur poste, regardant sans broncher les trolloques foncer vers la mort. Des explosions retentirent, faisant voler dans les airs des cadavres atrocement mutilés. Des tirs de dragons, les derniers encore opérationnels. Cotton les avait fait mettre en batterie quelque part autour du gué. Avec la fumée, il aurait fallu être devin pour localiser précisément ses armes. Au bruit, il devait y en avoir une demi-douzaine au maximum. Pourtant, surtout si on tenait compte de la distance, elles infligeaient des dégâts considérables à l'armée ennemie. Lumière rouge, pas loin de la position de Gawain, jaillit en direction de la fumée qui montait des dragons morts. Gawain eut un sourire. « Merci de tout cœur », pensa-t-il. Décidé, il posa une main sur son arme. Le moment était venu de voir combien ses bagues étaient efficaces. Ramassé sur lui-même, Gawain sortit du rideau de fumée. Sur le versant, les trollocs couraient toujours en direction du cours d'eau. Des flèches et des carreaux les accueillirent, et ils eurent droit à une nouvelle salve de dragons, mais venue d'une direction très légèrement différente. Cotton avait fait déplacer les armes, et Demandren ne réussissait pas à les repérer. Gawain courut au milieu des créatures des ténèbres. Sous ses pieds, le sol tremblait, et de la fumée l'agressait de nouveau, lui brûlant la gorge. Les mains noircies, Gawain supposa que son visage était lui aussi couvert de suie. Eh bien, ça l'aiderait à passer inaperçu. Des trollocs se retournaient, criant ou grognant, mais aucun ne put focaliser son regard sur Gawain. Quelque chose s'était passé, ils le savaient, mais pour eux, il n'y avait rien à voir. À travers le lien, Gawain sentit la colère des Gwen. Pas surpris du tout, il se contenta de sourire. À aucun moment il ne s'était imaginé qu'elle le féliciterait. Alors qu'il courait, des flèches s'enfoncèrent dans le sol. Mais il ne regretta pas son choix. Jadis, peut-être, il aurait agi ainsi par amour de la gloire et pour avoir une chance d'affronter lui-même des Mandred. En ce jour, ce n'était pas sa motivation. Tout ce qui lui tenait à cœur, c'était le besoin. Quelqu'un devait combattre ce rejeté et le tuer, sinon l'ultime bataille serait perdue. Tout le monde en avait conscience. Mais risquer Egwene ou Loghain aurait été un mauvais pari. Gawain, lui, était une mise convenable. Personne ne l'aurait chargé de cette mission, nul n'aurait osé, mais elle s'imposait à lui. Il avait enfin une occasion de faire la différence, de compter pour quelque chose. Mais il agissait pour Andorre, pour Egwene et pour le monde dans sa totalité. Devant lui, Demandred braillait son défi habituel.
« Envoyez-moi Altor, passez dragon de pacotille !»
Des lances de flammes jaillirent de nouveau du rejeté. Gawain dépassa les trollocs qui chargeaient et arriva au sommet, après avoir contourné une unité de chariens armée d'étranges arcs, presque aussi longs et massifs que ceux de deux rivières. Ces hommes entouraient un cavalier vêtu d'une armure de disques scintillantes, muni d'un hausse-col et de canons d'avant-bras. La visière de son casque terrifiant était relevée. Son beau visage rayonnant de fierté et de détermination parut étrangement familier à Gawain.
« Il faudra que ça se passe vite, » pensa le jeune homme, « et que je ne lui laisse pas une chance de canaliser le pouvoir. »
Les archers de Shara étaient prêts à tirer, mais un ou deux seulement tournèrent la tête tandis que Gawain se faufilait entre eux. En avançant, il dégaina son couteau. Après avoir fait tomber des mandrettes de sa selle, il devrait le frapper au visage. L'attaque d'un lâche, semblait-il, mais c'était la meilleure option. Après, il pourrait... Demandred se retourna et regarda en direction du jeune homme. Puis il leva une main et lança sur son agresseur un rayon de lumière blanche. Gawain sautant sur le côté, l'attaque le rata de peu. Derrière lui, au point d'impact, la terre se fissura, des crevasses noires qui semblaient ouvrir sur le néant ou l'éternité. Gawain bondit en avant, puis coupa la sangle de la selle du rejeté.
Quelle vitesse !
Grâce aux bagues, il avait eu le temps d'agir avant que son adversaire comprenne ce qui se passait. Gawain planta son arme dans le flanc du cheval, qui se cabra et désarçonna Demandred, sa selle encore sous lui. Alors que les archers donnaient l'alerte, Gawain bondit, son couteau tenu à deux mains. Mais le rejeté roula sur le côté. Des cendres s'élevèrent du sol lorsque des flux d'air le soulevèrent et le remirent sur ses pieds, son épée dégainée en un éclair. Il se mit en garde et lança un nouveau tissage. Sentant un souffle le frôler, Gawain comprit que des flux avaient tenté de l'immobiliser. Mais il était trop rapide, et Demandred, à l'évidence, avait du mal à le viser à cause des bagues. Le jeune homme recula, passa son couteau dans sa main gauche et dégaina son épée.
« Un tueur !»
lâcha Demandred, plein de mépris.
« Dire que Loustérine parle sans cesse de l'honneur d'affronter un homme en face. Je ne suis pas envoyé par le dragon réincarné. Alors que des ombres de nuit t'enveloppent, un tissage dont nul ne se souvient dans cet âge ?» « Sais-tu que Loustérine, se faisant, t'a condamné à mort ? Ta vie va s'écouler de toi, petit homme. Dans ce cas, nous irons ensemble au tombeau !»
dit Gawain. Demandred prit son épée à deux mains, une technique avec laquelle il ne paraissait pas très familier. Même avec les bagues, il semblait capable de suivre Gawain du regard, mais ses réflexes semblaient plus lents qu'ils auraient dû l'être.
Les fleurs de pommier dans le vent, avec trois frappes rapides, forcèrent le rejeté à reculer. Des chariens accoururent, épée levée, mais, d'un geste, Desmondred leur ordonna de ne pas s'en mêler. Il ne sourit pas à Gawain, ça ne devait pas faire partie des expressions qu'il maîtrisait, mais il se lança dans une figure qui ressemblait à un éclair à trois branches. Gawain répliqua par un sanglier qui dévale la colline. Desmondred était un sacré bon escrimeur. Malgré l'avantage que lui conféraient les bagues, Gawain échappa de très peu à sa contre-attaque. Les deux hommes dansèrent leur balai de mort dans un petit cercle délimité par les chariens qui ne perdaient rien du spectacle. De très loin, les dragons tirèrent sur le versant une salve qui fit trembler le sol. Il restait très peu d'armes, mais elles concentraient leur feu sur le plateau de Polov. Gawain exécuta une tempête qui secoue les branches, avec l'idée de passer sous la garde du rejeté. Il devrait en être prêt pour lui enfoncer sa lame dans une aisselle ou dans une jointure de son étrange armure. Desmondred se défendit avec une grande compétence et beaucoup de finesse. Sous sa cotte de maille, Gawain transpirait à grosses gouttes. Plus rapide qu'il ne l'avait jamais été, il lui semblait avoir des mouvements plus vifs encore que ceux d'un colibri. Pourtant, il ne réussissait pas à faire mouche.
« Qui es-tu, petit homme ?»
demanda le rejeté en reculant, épée levée sur le côté.
« Tu te bats bien ?»« Gawain Trakand !»« Le frère de la petite reine ? » ?»« Sais-tu au moins qui je suis ?»« Un meurtrier !»« Et ton dragon, il n'a jamais tué ?»« Pour garder, ou plutôt conquérir son trône ?» Elaine n'a jamais pris de vie? C'est différent. Tout le monde dit ça, petit homme.
Desmondred avança. Ses figures d'escrime s'enchaînaient à la perfection. Son dos restait bien droit, mais pas raide, et il se déplaçait avec l'amplitude élégante d'un danseur. Quant à son épée, elle ne faisait qu'un avec lui. Gawain n'avait jamais entendu parler des talents d'escrimeur de Desmondred. Pourtant, c'était le meilleur adversaire qu'il ait affronté. Gawain exécuta un chat qui danse sur le mur. Une magnifique figure à la hauteur de celle du rejeté. Il enchaîna avec une danse de la langue du serpent, en espérant que sa botte précédente aurait incité Desmondred à lui laisser une ouverture. Quelque chose percuta Gawain et le projeta sur le sol. Il fit un roulé-boulé et se releva, déjà en garde. Son souffle, remarqua-t-il, était soudain laborieux. L'effet des bagues? Non, mais il s'était sûrement cassé une côte.
« Une grosse pierre, » comprit-il. « Il a canalisé et projeté une pierre sur moi. »
Avec ses tissages, le rejeté avait du mal à le toucher, à cause des bagues qui le rendaient difficile à voir. Mais un objet assez gros pouvait voler dans sa direction générale et faire mouche.
« Tu as triché !»
lâcha Gawain.
« Triché ? Il y aurait des règles, petit escrimeur ? Si je me souviens bien, tu as tenté de me poignarder alors que des ombres te dissimulaient. »
Gawain inspira, expira et porta une main à son flanc. Non loin de là, un œuf de dragon heurta le sol, puis explosa. La puissance de la détonation déchiqueta quelques chariens, leur corps faisant une sorte de bouclier humain aux duellistes. De la terre tomba en pluie, comme des embruns sur le pont d'un bateau. Un des dragons, au moins, était encore en état de tirer.
« Tu m'as appelé meurtrier, et c'est la vérité. Mais je suis aussi ton sauveur. Tu es fou, pas le moins du monde !»
Desmondred décrivait un cercle autour de Gawain.
« L'homme que tu sers !» Loustérin Telamon. Lui, il est fou allié. Il pense pouvoir vaincre le grand seigneur. Mais c'est impossible. Un fait, simplement. Tu voudrais que nous nous rallions aux ténèbres? C'est ça, oui. Si je tue Loustérin, en récompense, j'aurai le droit de refaire le monde à ma façon. Le grand seigneur se fiche éperdument des règles. La seule manière de protéger ce monde, c'est de le disloquer, puis de préserver ses habitants. N'est-ce pas ce que ton dragon prétend pouvoir faire? Pourquoi l'appelles-tu mon dragon?
Aussitôt cette phrase prononcée, Gawain cracha du sang par le coin de sa bouche. Les bagues. Elles le forçaient à attaquer. Dans ses jambes, de l'énergie pure circulait.
Bats-toi, tue-le!
Tu es son partisan. C'est faux! Mensonge! Ou alors tu as été abusé. Je sais que Loustérin dirige cette armée. Au début, j'en doutais, mais c'est terminé. Le tissage qui te dissimule en est une preuve, mais j'en ai une meilleure. Aucun général mortel n'a autant de compétences que celui qui m'affronte aujourd'hui. Un vrai maître de la stratégie. Loustérin est peut-être déguisé, à moins qu'il commande en envoyant des messages à ce ridicule Matt Cotton. En utilisant le pouvoir, bien sûr. Quels que soient les détails, j'ai vu la vérité. C'est avec Loustérin que je croise le fer. De nous deux, j'ai toujours été le meilleur stratège. Une fois de plus, je le prouverai. J'aurais voulu que tu transmettes mon message au dragon, mais tu ne vivras pas assez longtemps pour ça, petit escrimeur. Prépare-toi !
Demandred leva son épée. Gawain se redressa, lâcha son couteau et prit son épée à deux mains. Le rejeté chargea, recourant à des figures qu'il ne connaissait pas. Mais assez classique pour qu'il les pare. Pourtant, malgré sa vitesse amplifiée, Demandred se joua plusieurs fois de ses contre-attaques. Puis il cessa de frapper, se contentant, bien en appui sur ses pieds, de parer, dévier ou bloquer les coups que Gawain multipliait. La colombe qui s'envole, la feuille qui tombe, la caresse du léopard. Entre ses dents serrées, Gawain grogna de rage. Les bagues auraient dû suffire. Pourquoi n'était-ce pas le cas? Le jeune homme recula puis se pencha en arrière alors qu'une nouvelle pierre fondait sur lui et le ratait d'un souffle.
« Grâce aux bagues, la lumière en soit remerciée. »
« Pour un homme de cet âge, tu es très doué, petit escrimeur. Mais tu manies quand même ton épée. »«
Que pourrais-je faire d'autre ?»«
Devenir ta lame !»
expliqua Demandred. Soufflé que son adversaire ne sache pas ça. Gawain repassa à l'attaque et bombarda son adversaire de coups. Comme il était toujours plus que rapide, Demandred resta sur la défensive, mais sans perdre un pouce de terrain. Un mur qui se jouait de chaque assaut. Soudain, le rejeté ferma les yeux. Gawain sourit, puis exécuta le dernier coup de la lance noire. L'épée de Demandred bougea trop vite pour qu'il puisse la suivre des yeux. Quelque chose percuta Gawain. Le souffle coupé, il s'immobilisa. Titubant, il tomba à genoux, puis baissa les yeux sur le trou qu'il avait dans le ventre. Demandred avait traversé la côte de maille, puis dégagé sa lame d'un simple coup de poignet.
« Pourquoi ? Pourquoi est-ce que je ne sens rien ?»«
Si tu survis à ça et revois Loustérin, » fit Demandred, « dis-lui que je suis impatient de livrer un duel contre lui. Depuis le dernier, je me suis amélioré. »
Demandred fit tourner son épée, saisit l'arrière de la lame entre son pouce et son index, puis la tira tout du long, la débarrassant du sang qui s'écrasa en pluie sur le sol. Son arme rengainée, il secoua la tête avant de lancer une boule de feu en direction d'un dragon qui tirait encore. L'arme se tut à jamais. Le rejeté approcha du bord du versant et se campa face à la rivière, ses chariens formant un cercle autour de lui. En état de choc, Gawain s'écroula, et sa vie sembla vouloir se déverser sur l'herbe carbonisée. Par miracle, il réussit à se relever sur les genoux. Le cœur en lambeaux, il ne lui restait plus qu'une idée en tête, retourner auprès des Gwen. À quatre pattes, il avança, son sang se mêlant à la terre. À travers des yeux collés par la sueur, il repéra plusieurs chevaux attachés à une vingtaine de pas de lui. Broutant sans enthousiasme l'herbe noire, les équidés attendaient leur tour de partir se battre. Après de longues minutes de combat, une éternité qui le laissa presque vidé de ses forces, Gawain parvint à se hisser sur le dos du premier cheval qu'il réussit à détacher. D'une main, il saisit la crinière de l'animal. Penché en avant, il mobilisa ses dernières forces et talonna sa providentielle monture.
« Dame Feil, » dit Mandevouin, « je connais ces deux hommes depuis des années. Dans leur passé, on trouve quelques accros, c'est sûr. Aucun gaillard n'a intégré la compagnie en ayant une biographie immaculée. Mais je suis sûr qu'ils ne sont pas des suppôts. »
Feil continua à manger en silence. Mobilisant toute sa patience, elle se forçait à écouter la plaidoirie de Mandevouin. Combien elle aurait voulu que Perrine soit là, histoire qu'ils se disputent un bon coup. Si elle n'évacuait pas la pression, elle finirait par exploser. La colonne approchait de Takandar, elle en approchait même beaucoup. Le ciel noir était zébré d'éclairs, et il n'avait pas vu depuis des jours une créature vivante, dangereuse ou non. Bien entendu, il n'avait pas revu non plus Vanin et Arnan. Malgré tout, Feil avait fait doubler la garde la nuit. Les sbires du Ténébreux n'étaient pas du genre à renoncer. Désormais, la jeune femme portait le corps dans un grand sac attaché à sa taille. Ses compagnons, le sachant, ils oscillaient entre la fierté d'accomplir un tel devoir et la terreur que tant de choses dépendent d'eux. Au moins, son fardeau, la femme de Perrine avait des gens avec qui le partager.
« Dame Feil, » dit Mandevouin en tombant à genoux. « Vanin est quelque part près de nous. Dans la compagnie, nous n'avons pas de meilleur éclaireur. Nous ne le verrons pas tant qu'il en aura décidé autrement, mais je parie qu'il nous suit. Où serait-il allé, sinon ? Si je l'appelle, l'invitant à venir raconter sa version des faits, nous résoudrons peut-être ce problème.
« J'y réfléchirai, »
souffla Feil. Mandevouin hocha la tête. Ce borgne était un excellent officier, mais il avait l'imagination d'une brique. Les gens simples supposaient toujours que les autres étaient comme eux. Du coup,
Comment aurait-il pu concevoir qu'un Vanin ou un Arnan ait servi la compagnie pendant si longtemps, de leur mieux afin d'éviter les soupçons, pour la trahir à un moment crucial? Au moins, Fayle savait désormais qu'elle ne s'était pas inquiétée pour rien. Si surprendre Vanin avec le corps n'avait pas suffi, la terreur qu'elle avait lue dans ses yeux confirmait sa suspicion. Comme elle ne s'attendait pas à la présence de deux suppôts, ils avaient réussi à la rouler dans la farine. Cela posé, ils avaient sous-estimé les périls de la flétrissure. Mais s'ils n'avaient pas attiré l'attention des monstres aux allures d'ours, leur plan aurait réussi. Sous sa tente, Fayle aurait attendu l'arrivée de voleurs déjà partis avec un des artefacts les plus puissants du monde. Le ciel bouillonnait. Dominant la vallée de Takandar, le mont Shayolghul se dressait au milieu d'une chaîne de bien plus petites montagnes. À son approche, l'air devenait plus piquant, presque hivernal. L'atteindre serait difficile, mais Fayle tenait coûte que coûte à remettre le corps de Valère au défenseur de la lumière. Une main posée sur son sac, elle sentait les contours de l'instrument. Non loin de là, Olver patrouillait, dans un champ de rochers gris typique des terres dévastées. Torse bombé, il portait son coutelas sur la hanche, comme une épée. Fayle songea qu'elle n'aurait peut-être pas dû l'emmener. Certes, mais dans les terres frontalières, les garçons de son âge apprenaient à délivrer des messages et fournir des vivres à des forts assiégés. Avant d'intégrer un groupe de guerriers ou d'obtenir un poste quelconque, ils devaient avoir au moins 12 ans. Mais leur formation commençait bien plus tôt que ça.
« Dame Fayle !»
L'épouse de Perrine leva les yeux sur Selandé et Arella, qui approchaient d'elle. Selandé, elle l'avait nommé chef des éclaireurs, depuis la trahison de Vanin. Petite, le teint pâle, cette femme ressemblait encore moins à une Aiel que les autres Tchafeil. Mais l'attitude compensait bien des choses.
« Oui, nous avons repéré des mouvements !»
annonça Selandé.
« Quoi ?»
demanda Fayle en se levant d'un bond.
« Quel genre ?»« Une sorte de caravane. Dans les terres dévastées, il faut que je voie ça !»
Ce n'était pas qu'une caravane, car il y avait un village dans le coin. Avec sa longue vue, Fayle ne distinguait pas les détails, mais elle voyait bien la masse sombre des bâtiments. Le bourg s'étendait au pied des collines, très près de Takandar. Un village par la lumière. Fayle braqua sa longue vue sur la caravane qui avançait au milieu du paysage désolé, en direction, semblait-il, d'un relais installé à bonne distance du village.
« Ces gens font comme nous !»
souffla Fayle.
« Ce qui veut dire, madame ?»
demanda Arella. Elle était allongée sur le ventre, près de Fayle. De l'autre côté, Mandevwin observait le secteur avec sa propre longue vue.
« C'est un relais d'où partent ensuite des équipements, »
expliqua Fayle.
« Vous voyez ces piles de caisses et ces faisceaux de flèches? Les créatures des ténèbres ne peuvent pas voyager, mais leur fourniture y arrive sans problème. La force d'invasion elle-même n'a pas eu besoin d'emporter des armes et des flèches de réserve. Ces équipements sont regroupés ici, puis distribués aux combattants quand ça s'impose. »
De fait, une bande de lumière indiqua qu'un portail allait s'ouvrir devant le relais. Une colonne d'hommes crasseux, chargés comme des mulets, entreprit de le traverser, suivi par des compagnons de misère qui tiraient des sortes de carrioles.
« Où que soient envoyées ces réserves, »
dit Fayle,
« ça doit chauffer rudement. Les carrioles sont remplies de flèches, pas de nourriture, puisque les trolloques dévorent chaque nuit des cadavres. »«
Si on pouvait se glisser par un de ces portails, »
fit Mandevwin. Arella ricana, comme si c'était une mauvaise blague. Puis elle regarda Fayle et se décomposa.
« Vous êtes sérieux? Tous les deux ?»« Nous sommes encore loin de la vallée, »
dit Fayle.
« Et ce village nous barre le chemin. Traverser un de leurs portails serait moins risqué que de continuer tout droit. » »« Mais on arriverait derrière les lignes ennemies. Nous y sommes déjà, »
lâcha Fayle.
« Donc je ne vois pas ce que ça changerait. »«
Il y aura un problème, »
fit Mandevwin, en orientant sa longue vue vers le village.
« Vous voyez les types qui sortent du bourg pour rejoindre leur camp ?»
Fayle regarda de nouveau.
« Des Aiel? Les Shaido se seraient joints aux forces du ténébreux? Même ces chiens ne s'abaisseraient pas à ça !»
fit Arella, avant de cracher par terre sur le côté. Ces Aiel étaient différents. Comme avant de tuer, ils avaient relevé leur voile, mais ceux-ci étaient rouges. Rouge ou noir, se faufiler entre des Aiel était pratiquement impossible. Très probablement, si Fayle et son groupe n'avaient pas encore été repérés, c'est parce qu'ils se trouvaient encore assez loin du village. En outre, qui se serait attendu à trouver des voyageurs ici ?
« On file !»
dit Fayle en rampant en arrière.
« Nous avons des mesures à planifier. »
Quand il se réveilla, Perrine aurait juré qu'on l'avait jeté dans un lac en plein hiver. Inquiet, il tenta de s'asseoir.
« Couchez, espèce d'imbécile !»
fit Janina en le tirant par le bras. La matriarche aux cheveux filasses semblait aussi épuisée que son patient. Perrine était allongée sur une surface molle, trop molle même. Un beau lit avec des draps propres. Dehors, vit-il par une fenêtre, des vagues venaient mourir lentement sur une plage. Avec son ouïe surdéveloppée,
Le jeune seigneur capta des cris de mouette. En fond sonore, des gémissements montaient de quelque part, assez près de lui.
« Où suis-je ? »
demanda-t-il.
« Dans mon palais, »
répondit Berelaine. Comme elle se tenait près de l'encadrement de la porte, Perrine ne l'avait pas encore remarqué. Superbe dans une robe violette ourlée de jaune, elle portait son diadème représentant un faucon en plein vol. La chambre était splendide, de l'or et du bronze rehaussant les miroirs, les fenêtres et les montants du lit.
« Je dois ajouter, seigneur Aibara, que cette situation a quelque chose de déjà vu pour moi. Mais cette fois, au cas où tu t'interrogerais, j'ai pris des précautions. »
« Des précautions ?» Perrine eut mal l'air et comprit. Uno était là. En tout cas, il le sentait. De fait, Berelaine tendit une main sur la droite, où Uno se prélassait dans un fauteuil, un bras en écharpe.
« Uno, que t'est-il arrivé ?»
demanda Perrine.
« Des maudits trolloques m'ont sauté sur le rable. J'attends mon tour pour une guérison. »
« Les blessés en danger de mort sont traités en premier, »
précisa Janina. Parmi les matriarches, c'était la plus douée en matière de thérapie. À l'évidence, elle avait décidé de rester avec les Aes Sedai et Berelaine.
« Toi, Perrine Aibara, nous t'avions soigné afin que tu survives, mais pas davantage. Jusqu'à maintenant, nous n'avions pas eu le temps de traiter les blessures qui ne menaçaient pas ta vie. »«
Un instant !»
s'écria Perrine. Il lutta pour s'asseoir dans son lit.
« Depuis quand suis-je ici ?»«
10 heures, »
répondit Berelaine.
« Quoi ? Il faut que je parte ! Les combats !»«
Continueront sans toi !»
coupa Berelaine.
« Désolé. »
Perrine grogna faiblement. Comment pouvait-on se sentir si fatigué ?
« Moiraine connaît un moyen d'occulter l'épuisement. Tu sais le faire, Janina ?»«
Si c'était le cas, je m'en abstiendrais sur toi. Tu as besoin de sommeil, Perrine Aibara. Ton rôle dans l'ultime bataille est terminé. »
Perrine serra les dents et fit mine de se lever.
« Ose sortir de ce lit !»
fit Janina.
« Et tu finiras saucissonné par des flux d'air, en lévitation pendant des heures. »
D'instinct, Perrine tenta de se décaler. Dès que cette idée eut germé dans sa tête, il se sentit ridicule. Sans savoir exactement comment, il était revenu dans le monde réel. Ici, pas question de décalage. Bref, il était aussi impuissant qu'un nouveau-né. Il se laissa retomber dans son lit.
« Ne tire pas cette tête, Perrine, »
dit Berelaine en approchant.
« Tu devrais être mort. Comment es-tu arrivé sur ce champ de bataille ? Si Harald, Luhan et ses hommes ne t'avaient pas repéré, gisant dans ton sang. »
Perrine secoua la tête. Quand on ne connaissait pas le rêve des loups, ce qu'il avait fait était au-delà de la compréhension.
« Où en sommes-nous, Berelaine ? La guerre, nos armées ?»
La première dame fit la moue.
« Je sens la vérité dans ton odeur, »
insista Perrine.
« Tu es inquiète, anxieuse même. J'ai vu que le champ de bataille n'est plus le même. Si les gars de Deux-Rivières sont aussi au champ de Merilor, ça signifie que nos 3 armées ont été contraintes de se replier au même endroit. Tous nos combattants, sauf ceux de la vallée de Takandar.
Nous ne savons pas comment s'en sort le seigneur dragon, »
dit Berelaine en prenant place sur une chaise près du lit. Non loin de là, Janina saisit le bras d'Uno, qui frissonna quand le pouvoir se déversa en lui.
« Rand se bat toujours, »
affirma Perrine.
« Trop de temps s'est écoulé, »
souffla Berelaine. Perrine comprit qu'elle lui cachait quelque chose, ou du moins qu'elle tournait autour du pot. Il le sentait dans son odeur.
« Rand se bat toujours, »
répéta-t-il.
« S'il avait perdu, nous ne serions pas ici. »
Il inclina la tête en arrière, la fatigue sensible jusque dans la moelle de ses os. Pourtant, pas question qu'il reste étendu alors que ses amis mouraient.
« Près de la brèche, le temps passe d'une manière différente. J'y suis allé, et je l'ai constaté par moi-même. Partout ailleurs, des jours se sont écoulés. Pour rendre un seul, au maximum. »«
Compris. Je transmettrai aux autres ce que tu viens de me dire. »«
Perrine, j'ai besoin d'un service. J'ai envoyé Elias avec un message pour nos armées. Hélas, j'ignore s'il a pu le délivrer. » « Graindal influence l'esprit de nos grands capitaines. Peux-tu découvrir si cette alerte a été donnée ?»«
C'est fait, oui. Presque trop tard, mais c'est réglé. Tu as agi comme il fallait, Perrine. À présent, tu dois dormir. »
Berelaine se leva.
« Encore une chose ?»«
Oui. » ?»«
Feil, quelle nouvelle d'elle ?»
L'anxiété de Berelaine monta en flèche.
« Non !»
Sa caravane de ravitaillement a été détruite par une bulle maléfique. « Perrine, je suis désolé. »
« A-t-on retrouvé son corps ?»«
Non. » »«
Alors elle est encore vivante ?»«
C'est... »«
Elle est encore vivante !»
Perrine devait y croire, sinon...
« Il y a un espoir, bien entendu. »
Berelaine s'éloigna, approcha d'Uno, qui pliait et dépliait son bras guéri, et lui fit signe de sortir avec elle.
Alors que Janina s'agitait devant le coin toilette, Perrine entendit des murmures derrière la porte. Dans l'air, il capta une odeur de simple et de douleur. La caravane de Feil transportait le corps de Valère. L'instrument était-il entre les mains des ténèbres? Et Gaul, il devait aller le chercher. Alors qu'il l'avait abandonné dans le rêve des loups, avec ordre de surveiller les arrières de Rande, Layal devait être à bout de force. Perrine avait le sentiment qu'il pourrait dormir pendant des semaines. Janina revint près du lit et secoua la tête.
« Perrine, Aibara, lutter pour garder les yeux ouverts ne sert à rien. »«
Janina, il me reste tant à faire. Je dois retourner sur le champ de bataille et... »«
Tu resteras ici, Perrine Aibara. Dans ton état, tu ne seras utile à personne. Et si tu essaies de prouver le contraire, tu te couvriras de honte. Si le forgeron qui t'a amené apprenait que je t'ai laissé partir et crever au combat, il reviendrait pour me pendre à la fenêtre par les pieds. Et ce type, eh bien, je crois qu'il serait fichu de réussir. »«
Maître Luhan... »
fit Perrine, se souvenant vaguement du moment où on l'avait secouru.
« Il était là, oui. C'est lui qui m'a trouvé. »«
Il t'a sauvé la vie. Ce gaillard t'a hissé sur son épaule, puis l'a couru jusqu'à une Aes Sedai pour avoir un portail. Quand il a déboulé ici, tu étais au bord du gouffre. Considérant ton gabarit, te soulever était déjà un exploit. »«
Je n'ai pas besoin de dormir, »
dit Perrine, alors que ses yeux se fermaient.
« Je dois... Il faut... »«
Oui, oui, »
l'apaisa Janina. Perrine ferma les yeux, une bonne façon de faire croire qu'il allait obéir. Dès que la matriarche serait partie, il pourrait se lever.
« Oui, oui, »
répéta Janina, la voix soudain très douce.
« Je m'endors, »
s'avisa Perrine. De nouveau, il se vit à la croisée de trois chemins. Un qui menait au sommeil et un autre qui le ramènerait au rêve des loups pendant qu'il dormirait, celui qu'il empruntait le plus souvent. Le troisième, c'était le songe, mais en y étant en chair et en os. Pourtant très tenté, Perrine décida pour l'instant de ne pas s'engager dans cette voie. Optant pour un sommeil ordinaire, il comprit qu'il serait mort s'il avait fait un autre choix. Le souffle court et le regard rivé sur le ciel, Androl se trouvait assez loin du champ de bataille. Après la retraite, à partir du sommet du plateau, il avait couru comme un automate. L'attaque avait été si puissante.
« Que s'est-il passé ? »
émit-il à l'intention de Pevara.
« Ce n'était pas Taïm. »
répondit la sœur en se relevant. D'instinct, elle épousta sa robe.
« Selon moi, il s'agissait de Demandred.
Pourtant, je nous ai délibérément transportés loin de l'endroit où il se battait. »«
Je sais. Comment a-t-il pu avoir l'audace de se déplacer et d'interférer avec le groupe de gens capables de canaliser qui attaquaient ses forces ?»
Non sans grogner, Androl s'assit sur le sol.
« Pevara, pour une Aes Sedai, tu es incroyablement caustique. »
Androl fut surpris par l'amusement de sa compagne.
« Tu connais bien moins les sœurs que tu le penses, mon gars. »
Pevara alla jeter un coup d'œil aux blessures des marines. Androl prit une grande inspiration. Aussitôt, des odeurs montèrent à ses narines. Des feuilles mortes, de l'eau croupie. L'automne, cette année, était arrivé beaucoup trop tôt. Du haut de leur versant, Androl et Pevara avaient vu sur une vallée où, malgré la mauvaise voie que prenait le monde, des fermiers avaient labouré le sol en prévision des semailles. Mais rien n'avait poussé. Près d'Androl, Théodrine se releva souplement.
« C'est la folie là-bas, »
dit-elle en s'empourprant un peu. Androl sentit la profonde désapprobation de Pevara. La jeune sœur n'aurait pas dû être à ce point esclave de ses émotions. Il lui restait à maîtriser l'art de les masquer dont les Aes Sedai étaient expertes.
« Elle n'est pas une véritable Aes Sedai, »
émit Pevara.
« Qu'importe ce qu'en pense la chair d'Amirline, elle n'a jamais subi l'épreuve. »
Théodrine semblant avoir lu les pensées de Pevara, les deux gardèrent leur distance. Pevara alla soigner Emarine, qui fit montre d'un stoïcisme à toute épreuve. Théodrine se chargea d'une coupure qui zébrait le bras de Jonette, qui parut surpris par la sollicitude de la sœur.
« Elle l'aura liée d'ici très peu de temps, »
émit Pevara à l'intention d'Androl.
« Tu as remarqué comment elle s'est débrouillée pour être à ses côtés, ne cessant jamais de le suivre ? Après notre départ de la tournoire, elle ne nous a pas lâchés d'un pouce. »
« Et s'il la lie en retour ?»
demanda Androl.
« Eh bien, nous verrons si ce qu'il y a entre nous est unique ou non. »
Pevara hésita un peu.
« Nous avançons sur des chemins qui n'ont jamais été explorés. »
Androl chercha le regard de sa compagne. Elle faisait allusion à ce qui était arrivé la dernière fois qu'ils s'étaient liés dans un cercle. Pevara avait ouvert un portail, mais en utilisant le pouvoir de son compagnon.
« Nous devons essayer de nouveau ça, » émit-il.
« Le plus vite possible, oui, » répondit Pevara.
Elle sonda Emarine pour s'assurer que sa guérison avait bien fonctionné.
« Je vais très bien, Pevara Sedai, »
fit la chamane, courtois comme à son habitude.
« Si je puis me permettre, on dirait que tu aurais bien besoin aussi d'une guérison. »
Pevara baissa les yeux sur sa manche brûlée. Permettre à un homme de la guérir l'inquiétait encore un peu, et cette réaction l'agaçait.
« Merci, »
dit-elle, en laissant Aimarine lui toucher le bras et canaliser le pouvoir. Androl décrocha le petit gobelet en fer blanc qu'il portait à la ceinture. Puis il leva une main, deux doigts pliés, et les serra comme s'il voulait pincer quelque chose entre eux. Quand il les écarta, un minuscule portail s'ouvrit au fond du récipient, qui se remplit d'eau. Pevara vint s'asseoir à côté de lui et accepta le gobelet qu'il lui tendait. Après avoir bu, elle s'extasia.
Aussi fraîche que l'eau d'une source de montagne.
Parce que c'en est, fit Androl.
Ça me rappelle une question que je voulais te poser. Comment fais-tu ça?
Quoi donc? C'est un portail miniature, rien de plus.
Ce n'est pas ce que je voulais dire, Androl. Tu viens d'arriver ici, donc tu n'as pas pu mémoriser assez la région pour ouvrir un portail donnant sur une source, à des dizaines de lieues d'ici.
Androl regarda Pevara comme si cette question ne lui avait jamais traversé l'esprit.
Je n'en sais rien. C'est peut-être une spécificité de mon don.
Je vois.
Pevara se tut un moment.
Au fait, qu'est-il arrivé à ton épée?
Androl porta une main à sa hanche et découvrit que son fourreau était vide. Il avait lâché son arme lorsque la foudre était tombée près d'eux. En fuyant, il n'avait pas eu la présence d'esprit de la ramasser.
S'il entend parler de ça, Garfin m'enverra moudre du grain aux cuisines pendant des semaines.
Ce n'est pas si grave. Tu as d'autres armes.
C'est une affaire de principe, dit Androl. Porter une épée me rappelle des choses. C'est comme... Eh bien, comme si regarder un filet me remettait en mémoire une expédition de pêche au large de Mayenne. Et comme si voir une source me faisait penser à Jane. Des petits détails, mais qui comptent. Je dois redevenir un soldat. Pevara, il faut trouver Taïm. Les sceaux.
Oui, mais de la façon dont on s'y est pris, on ne le trouvera pas. Tu es d'accord?
Androl soupira, mais il dut l'admettre.
Excellent, fit Pevara. Je déteste être une cible.
Alors, que devons-nous faire?
Aborder la question avec notre cerveau, pas en agitant des épées.
Ça, ce n'était pas mal vu.
Et qu'avons-nous fait, Pevara? Tu as utilisé mon don.
On verra bien.
Pevara but une nouvelle gorgée.
Si ça pouvait être une bonne infusion.
Androl fronça les sourcils. Puis il reprit le gobelet, ouvrit un portail miniature entre ses doigts et en laissa tomber quelques feuilles sèches. Avec un filament de feu, il fit chauffer la boisson et y ajouta du miel via un autre portail.
J'avais tout ça dans mon atelier à la Tournoire,
expliqua-t-il en tendant le gobelet à sa compagne.
On dirait bien que personne ne m'a détroussé.
Pevara but l'infusion puis sourit aux anges.
Androl, tu es merveilleux!
La chamane rayonna. Depuis quand n'avait-il plus éprouvé de tels sentiments pour une femme? L'amour s'était réservé aux jeunes idiots, non? Hélas, ces crétins n'avaient pas les yeux en face des trous. Ils cherchaient un joli visage et n'allaient pas plus loin. Androl, lui, avait assez bourlingué pour savoir que la beauté n'était rien comparé au type de solidité qu'offrait une femme comme Pevara. Contrôle, équilibre, détermination. Ces qualités-là, seul l'âge vous les conférait. Avec le cuir, c'était la même chose. Une pièce neuve, c'était joli, mais un cuir véritablement bon devait avoir été utilisé et usé, comme une sangle de sel soigneusement entretenue pendant des années. Avec une sangle récente, on ne pouvait jamais être tranquille. Après quelques saisons, on n'avait plus de doute.
J'essaie d'interpréter cette pensée, fit Pevara. Viens-tu vraiment de me comparer à une vieille sangle de sel?
Androl s'empourpra.
Nous dirons que c'est une déformation d'artisan de cuir,
fit Pevara en sirotant son infusion.
Eh bien, tu n'arrêtes pas de me comparer à... À quoi déjà? Une galerie de personnages?
La sœur rouge sourit.
Ma famille.
Des gens tués par des suppôts.
Désolé.
C'est arrivé il y a très longtemps, Androl.
Mais la chamane ne fut pas dupe. La plaie était encore à vif.
Par la lumière. J'oublie toujours que tu es plus vieille que la plupart des arbres.
Là, tu aggraves ton cas. D'abord une vieille sangle, maintenant d'antiques arbres. Puis-je supposer qu'aucun des innombrables métiers que tu as exercés ne t'a préparé à parler comme il convient à une dame?
Androl haussa les épaules. Plus jeune, il aurait sans doute été embarrassé d'aligner des gaffes à répétition. Avec le temps, il avait appris qu'il n'y pouvait rien. Et s'il tentait de s'améliorer, le résultat était pire.
Bizarrement, sa réaction plut à Pevara. Sans doute parce que les femmes aimaient bien voir un homme pris en flagrant délit de nullité. La joie de la sœur fut de brève durée, car elle leva les yeux vers le ciel. Androl repensa aux champs stériles, aux arbres morts, aux tonnerres omniprésents. Ces temps n'étaient faits ni pour la joie, ni pour l'amour. Bizarrement, pour cette raison, il s'accrochait aux deux, comme jamais.
« Nous devrions y aller bientôt, » dit-il. « Quel est ton plan ?»«
Taïm est toujours entouré de sbires. Si nous continuons à attaquer tête baissée, on se fera tailler en pièces avant de l'avoir atteint. Il faut opter pour une approche furtive. »
« Et comment vois-tu ça ?»«
Tout dépend. Quand la situation l'exige, jusqu'à quel point peux-tu être fou ?»